Salut les amis, bienvenue dans le plein de super, je suis Rickside, vous écoutez le podcast qui vous parle du meilleur de la bande dessinée américaine. On se retrouve aujourd'hui pour notre hommage au grand John Romita. On va parler de ses premières aventures sur Spider-Man. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, l'inusable Jérôme, le Lord of Babylon. Bonjour, comment ça va?
Coucou, ça va, chaudement, mais ça va.
Chaudement et moitement, comme on dit.
Ah,
mais ça, et Isaac, c'est oui.
Oui, tout à fait, oui. Hein? Je suis en train de boire un verre d'eau glacée.
Isaac en train de boire un verre d'eau glacée, là aussi. Il fait chaud.
En pleine canicule.
En pleine canicule, voilà, rien ne nous arrête. C'est le plein de super. Donc, voilà, je vous ai tout spoilé, hein, on va vous parler de John Romita pour cet épisode. On va revenir sur les épisodes quand il débarque sur Spider-Man. Il prend la relève de Steve Ditko. Stan Lee est au scénario, au scénario, au dialogue, on va dire. et John Romita débarque au numéro 39 de Amazing Spider-Man. Et on va aller jusqu'au numéro 50, en gros, hein, pour vous parler de. On aurait pu aller plus loin, on aurait pu aller moins loin.
Ouais, on parlera un petit peu de ce qui se passe après et tout.
Ouais, voilà, on va déborder un petit peu. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ces épisodes? C'est un peu des épisodes mystiques, hein, c'est des classiques. Spider-Man va affronter dans un premier temps le Bouffon Vert, et c'est les épisodes où on aura la révélation de l'identité du Bouffon Vert, qui n'est autre que Norman Osborn.
Non, spoiler.
Spoiler.
Spoiler. Ouais.
Spoiler alert. Norman Osborn, donc qui est en parallèle le père d'un des amis de Peter Parker. Peter Parker qui est en fait l'homme araignée, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bon, on aura dans un premier temps ça, on aura l'apparition du Rhino, hein, qui vient mettre le souk à New York et s'emparer du fils de Jonah Jameson, l'astronaute. Le colonel, c'est John Jameson, hein, si je ne dis pas de bêtises.
John Jameson, ouais. Ouais.
C'est ça, qui a des pouvoirs, hein, puisqu'il a été contaminé par des spores de l'espace, qui va devenir super puissant. Donc ça, c'est la suite des aventures. Donc l'arrivée du Rhino et en parallèle l'histoire de John Jameson. On aura ensuite le lézard, le grand retour du lézard, qui va réussir à casser un bras de Spider-Man, qui va avoir un bras en écharpe pendant plusieurs épisodes. L'arrivée du Shocker, un des ennemis mythiques de l'araignée, le Shocker qui envoie des ondes de choc, qui fait trembler la Terre. Le retour de Kraven, le chasseur, qui en veut encore à Spider-Man, mais aussi au Bouffon Vert, qu'il avait engagé dans un premier temps pour tuer Spider-Man. Donc le retour de Kraven et en parallèle l'arrivée d'un nouveau vautour s'appelle Blackie Drago, hein, qui a piqué le costume de Adrian Toomes, comme ça, qui s'appelle le premier vautour. Pareil, qui va affronter Spider-Man, qui va croiser le Kraven le chasseur aussi, ça va se foutre sur la gueule un peu dans tous les sens. Et dernier épisode, le 50, ça implique le Caïd.
Première apparition
même du Caïd, tout simplement.
Ah, mais il peut pas de notre gueule, hein, avec tous ceux qui apparaissent.
Mm-hmm. Ouais, c'est enchaînement d'arrivées. Il y a aussi la première apparition de Mary Jane du côté des amours de Spider-Man. Ouais.
La première apparition visuelle. Enfin, c'est la première fois qu'on voit son visage.
Voilà.
Chez Ditko, elle était toujours cachée par une plante, par.
Peter qui va quitter Tante May, hein, et pour aller s'installer avec Harry Osborn de son côté, qui va se séparer de Betty Brant. Et, euh, et, 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 un peu papillonné entre Gwen Stacy et Mary Jane, du coup. C'est un peu l'émancipation de Peter Parker, en fait, hein, cette période-là, qui est marquée donc, par l'arrivée de ce nouveau dessinateur, John Romita. Du coup, peut-être Isaac, tu peux nous parler un petit peu de Romita,
avant...
sa vie, son œuvre.
je vais faire rapide parce que je n'avais pas révisé, mais en gros, comment dire, on a été un peu surpris par l'annonce, donc du coup, on a décidé de faire l'annonce du décès de John Romita, on a décidé de faire une émission un peu à l'arraché comme ça sur notamment ces Spider-Man, parce que voilà, c'est un dessinateur qui a beaucoup compté pour nous. Et puis, c'est un dessinateur qui, dans les premiers dessinateurs de Marvel, il arrive un peu après Kirby, Don Heck. Il ne fait pas partie de la première salve de dessinateurs qui ouvre le banc des super-héros Marvel. Par contre, il avait déjà bossé pour Marvel avant, quand ça s'appelait Atlas. Il avait bossé pour des westerns, il avait bossé, je crois, pour des comics de guerre, des comics de romance, bien sûr, ça, on va en reparler. Oui. Et puis, il avait fait un peu de super-héros aussi, puisqu'il avait fait notamment du Captain America, et notamment les épisodes de Captain America, le retour de Captain America dans les années 50, quand il combattait des communistes. Donc, c'est le Captain America qui a ensuite été rétroactivement considéré comme un imposteur, dans les années 70, où on expliquait que c'était un fan de Steve Rogers qui avait tout fait pour ressembler à Steve Rogers, recréer la formule du super soldat, et que ça l'avait rendu hyper parano dans les années 50 et qu'il voyait des espions communistes partout. Donc c'était une manière pour Steve Englehart dans les années 70 de réintroduire ces épisodes de Captain America dessinés par John Romita Sr. Et Romita, donc... Après cette première période chez Marvel qui s'appelait Atlas, il part chez DC Comics au début des années 60 et il fait notamment des comics de romance chez DC. Il l'emploie pas sur des super-héros, il l'emploie sur de la romance. Faut savoir que c'est quelqu'un qui est très inspiré par des dessinateurs de comic strip. C'était un gros lecteur de comics en fait quand il était petit, et notamment de comic strip, donc les bandes qui étaient dans les journaux. Et il adore notamment Milton Caniff. C'est Terry et les Pirates, c'est son. Je crois que c'est vraiment sa BD de référence. Et donc il est très à l'aise, notamment à décrire voilà des personnages dans les tourments amoureux des personnages. Et ça va se ressentir quand il va reprendre Spider-Man. Et alors comment est-ce qu'il reprend Spider-Man ? C'est que quand il revient chez Marvel, Stan Lee lui propose d'abord de reprendre Daredevil, qui n'a pas de dessinateur. Ils ont eu au début de Daredevil donc Bill Everett, mais qui a fait qu'un épisode. Ils ont eu Joe Orlando qui a fait deux épisodes. Et ensuite, il y a eu Wally Wood qui a repris le perso, qui a donné le costume rouge notamment à Daredevil, qui a vraiment repris en main la série, mais tellement qu'il se fâche avec Stan Lee parce qu'il n'a pas assez de crédit sur le comics une fois publié. Donc Daredevil se retrouve sans dessinateur, et Stan Lee fait appel à John Romita. Et durant son passage sur Daredevil, où notamment au début c'est Jack Kirby qui fait carrément les découpages des épisodes et c'est Romita qui finit les dessins, il y a un épisode de Daredevil où Daredevil fait équipe avec Spider-Man. Et Stan Lee explique que c'était une manière de tester Romita sur Spider-Man, parce que ça n'allait plus avec Steve Ditko sur le comic book Amazing Spider-Man, et que Steve Ditko n'allait pas tarder à claquer la porte. Il y avait de l'eau dans le gaz depuis quelques temps sur Amazing Spider-Man. Pour expliquer, on explique en vitesse, mais la méthode Marvel, c'est en gros, Stan Lee discute en gros de l'intrigue avec le dessinateur. Le dessinateur fait tout le découpage, donc en fait, on raconte toute l'histoire. Parfois, il met des dialogues en crayonné, il met des dialogues dans les marges, et ensuite, Stan Lee reçoit les crayonnés ancrés, puis il fait il rajoute des dialogues, des fois, il rajoute des bulles, il met des onomatopées, mais grosso modo, l'épisode est déjà narré par le dessinateur. Mais sur Spider-Man, ça avait pris des proportions à tel point que Steve Ditko avait demandé à Stan Lee d'être crédité comme co-scénariste, et il est coploteur, quoi. co-créateur de l'intrigue. Et il se fâche de plus en plus avec Stan Lee, notamment par rapport à des changements. Enfin bref, la méthode ne fonctionne plus sur les derniers numéros. Et Steve Ditko claque la porte pour aller notamment chez Charlton créer ses propres super-héros avec The Question, Blue Beetle. Mais il faut un dessinateur pour Spider-Man. Et surtout que Spider-Man, c'est déjà un carton chez Marvel. John Romita, on lui propose de reprendre Spider-Man. Et il dit, très honnêtement, il pensait qu'il allait faire trois épisodes, qu'il allait se faire virer, qu'il allait flinguer la série. Parce qu'il pensait, en fait, il disait, moi, je ne suis pas un créateur comme Steve Ditko, en fait. Je suis juste un narrateur, je suis juste un storyteller. Et quand il reprend Spider-Man, il le fait de la même manière que Steve Ditko, c'est-à-dire qu'il discute au téléphone avec Stan Lee, ou au téléphone ou dans les bureaux, des intrigues qu'ils vont mettre en place dans les épisodes, et puis ensuite il rentre chez lui et il fait tout le boulot, quoi. Au début, il se calque vraiment sur ce que faisait Ditko, et on le voit d'ailleurs parce que la mise en page reprend souvent la structure en 9 cases. Et il explique que petit à petit, en fait, au fur et à mesure des épisodes, et notamment dans les épisodes sur le Rhino, il a commencé à être plus assuré en fait sur la narration, et d'un coup il a été vraiment assuré sur comment dessiner Spider-Man. Il a fait vraiment une, quand vous voyez comment Steve Ditko dessinait Spider-Man et comment Romita dessine Spider-Man, c'est pas du tout la même façon d'illustrer le personnage, et à tel point que la façon d'illustrer Spider-Man par Romita, étant donné le succès que ça va avoir, parce que les ventes vont faire qu'augmenter, là où il pensait que les ventes allaient se cracher avec le départ de Ditko, c'est le contraire. C'est-à-dire que le comics va encore mieux marcher avec Romita, à tel point que tout le monde va dessiner jusqu'à l'arrivée de McFarlane. En gros, façon de dessiner Spider-Man, c'est Romita qui l'a inventé. Et Romita va rester jusqu'au début des années 70, et puis il va même faire après l'ancrage sur Jiken notamment. Et il va devenir directeur artistique de Marvel à cette même époque, où il va concevoir pas mal de personnages d'un point de vue graphique. C'est-à-dire c'est lui qui va concevoir notamment Wolverine, le Punisher, Bullseye et tutti quanti, quoi. Enfin, en gros, il y a vraiment le sens du design, le sens de la narration, et puis le côté... moi, j'ai l'habitude de dire que John Romita, c'est le mec qui n'a jamais dessiné une planche moche, quoi. Enfin, c'est jamais faiblard, c'est vraiment... C'est toujours hyper bien conçu. Il y a un vrai univers. Et encore aujourd'hui, moi, j'adore son Spider-Man. J'ai une préférence pour le Spider-Man de Ditko qui est juste avant, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre et d'étrange et un peu plus agressif dans les Ditko. Mais les épisodes de Romita, je les aime énormément. C'est vraiment un poil de cul que ça se joue. Et je trouve que quand on les a proposés, et puis pour les relire, c'est vraiment... franchement, j'ai qu'à regarder la première page pour savoir tout ce qui se passe dans, dans l'épisode qui suit, parce que je les ai tellement relus. Et de voir en fait la progression de comment son Spider-Man va prendre en musculature, en design, en conception. Les toiles sont beaucoup plus espacées. Sa musculature est plus développée. Les yeux sont beaucoup plus prononcés. Et ça va devenir, je trouve, c'est le Spider-Man classique comme on aime. Et puis, c'est des épisodes qui vont aussi inspirer notamment la mini-série Spider-Man bleu. Par Jeff Lubb et Tim Sale, et ça va là où c'est le plus connu. C'est que si vous avez aimé les Spider-Man de Sam Raimi, tout est dans
ces épisodes là.
J'aime bien parce que en effet aller relire aussi, et moi ça faisait longtemps, hein, je les avais pas relus, et chose que je n'avais jamais fait, je m'étais relu aussi les épisodes de Ditko juste avant. Et moi, j'adore justement comment, ce que tu dis, Romita va peu à peu prendre le personnage et le faire à sa sauce. Et c'est vrai que c'est super intéressant de voir comment on passe en 4-5 épisodes d'une ambiance à la Ditko, comme tu dis, bizarre, Déjà, tu as quand même un gros changement en effet, parce que dès le premier épisode de Romita Senior, on a la révélation de l'identité du Green Goblin que
Ouais.
Ditko ne voulait pas du tout justement qu'on révèle. Et clairement, je ne pense pas que ce soit lui qui. Enfin, il voulait que ce soit Norman Osborn. Et peu à peu, ce que je trouve aussi, c'est que c'est aussi un. Comment le comic Spider-Man va accompagner. Le changement d'époque, comment il va illustrer le changement d'époque des années 60 États-Unis. C'est-à-dire qu'on passe, je trouve, moi, d'une ambiance polar, enfin, années 50, noir et blanc, polar, voilà, enfin, l'Amérique pré-Seconde Guerre mondiale, aux années 60, aux 60, avec tout le côté pop. Et tu le vois, et je trouve que tu le vois super bien, et surtout, j'adore de voir comment peu à peu, par tranche, il investit ce champ-là. Parce que bah, au début, c'est comment il arrive à. Ah, bah, il crée le Rhino, il va créer le Shocker. Donc comment il arrive à lui-même aussi à créer des personnages marquants. Hein. Je veux dire, il va pas créer des personnages qui sont obligés aujourd'hui, on vient de le dire. Enfin, on a le Rhino, le Shocker et le Kaïd.
Ouais.
Et même si le Kaïd, c'est un personnage. C'est pas le Kaïd tel qu'il est aujourd'hui, parce que Frank Miller l'a complètement modifié. Enfin, complètement, en tout
Ouais.
cas, lui a donné
Graphiquement, c'était
voilà,
déjà
graphiquement,
ouais.
c'est le, voilà, graphiquement, il change pas. Il va changer dans la manière d'être, dans la manière de, ouais, dans la
Ouais.
manière d'être, mais franchement, la forme est tout, est déjà là. Et donc, il travaille sur ces méchants-là. Et après, en effet, je trouve qu'il va plutôt, il va venir sur l'environnement et voilà, et sur le côté pop. Et moi j'aime beaucoup parce que bah, je trouve que c'est vraiment sous Romita que en fait tout l'environnement, tout le groupe autour de Peter va s'élargir encore plus manière plus forte. Et je trouve en plus que c'est là où Peter passe du nerd solitaire et rejeté à un mec qui va intégrer vraiment une bande. C'est là où il devient véritablement ami avec Harry Osborn. Et en plus, pareil, c'est là. J'aime bien petit à petit comment il devient vraiment ami avec Harry. Comment, pareil avec
Ouais.
Gwen.
Et
Comment.
l'explication de comment est-ce qu'ils deviennent amis, c'est vraiment bien aussi. C'est comme
C'est
s'ils disent, ah ouais,
superbe.
toi t'as perdu ta mère, mais moi je suis orphelin.
Je
Enfin,
suis
c'est
orphelin et tout ça.
ouais.
C'est vraiment pas le truc. En fait, c'est ça qui m'a. J'avais jamais perçu, c'est en le relisant, à quel point c'est fait vraiment de manière. Ça coule de source. C'est pas, on te balance pas ça d'un bloc en fait. C'est, il prend les éléments qui existent, et il arrive à en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment super. Et tu vois aussi, donc je trouve que Peter devient plus beau aussi. Il devient plus beau gosse. Bon, on lui donne la mobylette. Et même Gwen, elle passe l'étudiante très très sérieuse, tout ça, jolie, mais bon, avec ses bouquins, c'est Brigitte Bardot. Ça, c'est limite, c'est la Brigitte Bardot des années 60 aussi, quoi. Puis bon, bah il y a Mary Jane aussi à qui est barré et qui va tout. Tout exploser, quoi, j'ai envie de dire. Et ouais, non, c'est super parce que je trouve que c'est typique le dessinateur ouais, qui a réussi à faire passer Spider-Man dans une autre époque.
Ouais.
Et c'est ça qui est assez incroyable, quoi.
Ouais, le bon dessinateur au bon moment, quoi. Il y a
Mais
vraiment,
ouais,
ils ont vraiment
totalement.
choisi là où ils auraient essayé d'avoir un. Je sais pas comment. Alors, si c'était le plan de Stan Lee d'avoir quelqu'un qui dessinait pas du tout comme Steve Ditko, ou c'était juste que c'était le seul mec qui était disponible. Pour reprendre Spider-Man, mais c'est vrai que le style est complètement aux antipodes de ce que tu as chez Steve Ditko, et du coup c'est un pari qui est comment dire qui est risqué, et finalement c'est hyper payant quoi. Ils ont trouvé le dessinateur qui est totalement enfin qui est, le dessinateur qui est de toute façon qui est maintenant indissociable de Spider-Man.
Ouais. En
Ouais,
phase avec
non,
son
non.
époque et qui ramène, qui apporte du glamour à la série. Peut-être qui était, voilà, ça tranche complètement effectivement avec l'aspect un peu bizarre de Ditko. Mais du coup, je suppose que c'était complètement en phase avec l'époque
Ouais.
et ça colle parfaitement avec l'orientation un peu plus soap-opéra du. De la série avec la multiplication des conquêtes de Peter.
J'aime bien parce que même et dans un autre sens, c'est de voir comment un personnage, je viens d'oublier de son nom, le journaliste qui se fait passer pour un mec de la pègre.
Frédéric Fosswell.
Ouais, voilà. Et ben, comment aussi il l'enlève du cast peu à peu, qui était quand même un personnage, je trouve, qui était un des personnages centrales sous Ditko. Ouais. Et comment il va l'enlever, mais pareil, il lui offre une super belle porte de sortie avec les épisodes du Kaïd, quoi. Mais c'est pareil, c'est typiquement le personnage qui fonctionnait sous Ditko, avec Ditko, mais que dans Minta, pour lui, tu sens bien que c'est pas le personnage qui lui plaît. Là où il fait revenir Ned Leeds et qui fait. Et c'est pareil, c'est lui qui amorce une véritable histoire entre Ned Leeds et Betty Brant. Et pareil, il le fait de manière super mature. J'aime beaucoup, moi, les retrouvailles de Peter avec Betty, où il se rend compte qu'au final, il a plus du tout il a plus du tout la même relation, la même attirance pour lui. Et comment Ned devient naturellement le compagnon de Betty, quoi.
Ouais, t'as vraiment la maturité de Peter, en fait. Il s'aperçoit qu'il a complètement qu'il a complètement changé, parce que il se dit mince, mais en fait, on n'a pas tant de points communs que ça avec Betty Brant. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui peut t'arriver dans la vie, où en fait, tu peux être très amoureux d'une personne et puis quelques années plus tard, t'as changé, t'as évolué, t'as plus du tout les mêmes relations. Et c'est vrai que c'est quand même super étonnant, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire. En fait, c'est vraiment pour le coup, j'aime pas le terme parce que c'est galvaudé aujourd'hui, mais la prise de risque par rapport à un personnage qui était à l'époque l'étendard de Marvel, d'arriver à le faire vraiment changer de le côté moins... comment dire, il y a aussi moins d'humour que chez Ditko. Moins de scènes vraiment avec du comique vraiment un peu visuel comme ça. Il y en a toujours, notamment dans les blagues de Spider-Man. Mais il y a aussi un côté... je sais pas, il y a un côté... plus il y a un côté plus super héroïque, plus que tu attends en fait d'un combat de super héros. Les combats sont beaucoup plus amples que chez Ditko, où tu as vraiment l'impression que ça se passe dans une pièce et qu'ils se défoncent avec des gangsters, mais que ça se déroule à chaque fois dans une pièce vraiment exiguë. Là, c'est ils se battent sur les toits avec le vautour et le Kraven. C'est dans ces épisodes-là qu'il y a Kraven qui intervient dans une fête.
Ah ouais. la fête de départ de
Flash Thompson. Mais ça aussi, effectivement, il y a aussi Flash Thompson qui était hyper important dans les épisodes de Ditko. Et là, qui va effectivement, il est remplacé par Harry Osborn. Et tu vas avoir l'arrivée aussi, comme tu dis, au Daily Bugle, à la place de Frédéric Fosswell, tu vas avoir Robbie Robertson, qui débarque. Qui est aussi un changement qui marque les changements aussi de société, parce que tu as un personnage noir important dans une série Marvel, je crois. C'est un peu l'un des premiers... faudrait vérifier en fait si c'est avant ou après l'arrivée de Black Panther dans les Fantastic Four, mais voilà, c'est un personnage régulier noir dans un des comics les plus vendus, qui, il faut le rappeler quand même, dans un pays où ils ont encore ils sont en plein débat des droits civiques, ça peut poser problème par exemple pour la distribution de comic book dans les États du Sud. Donc, ils ont vraiment pour le coup, ils ont vraiment posé leur couille sur la table, quoi.
Et puis pour le coup, Robbie, c'est pas un autre photographe, c'est pas le pigiste, c'est le directeur, c'est quasiment le patron, quoi, sous Jonah. Ouais. C'est le mec en plus qui, alors peut-être pas au début, je m'en rappelle plus trop, mais qui peu à peu devient carrément une caution morale par rapport à Jonah. Et ce qui est super bien pensé, parce que d'avoir tel personnage, ça permet que Jonah puisse avoir encore plus de plus en plus ses outrances. Je trouve qu'il joue bien, Jonah Robbie, ça toujours bien.
Effectivement, il peut continuer à être effectivement outrancier, puis à balancer n'importe quoi dans ses éditos, sans que ça tombe dans la caricature, en fait, et puis sans que ça fasse dans la répétition. Parce que tu as quand même Robertson qui est là pour que le Daily Bugle publie quand même des vraies informations.
C'est exactement ça. C'est heureusement qu'il est là pour faire tourner la boîte, lui.
Ouais, voilà.
Non, c'est vraiment... vraiment, j'ai été... comme je disais, moi, c'est une période, ça fait très longtemps que je n'avais pas lu. Et c'est rigolo parce que je prends un de mes premiers comics de... que j'ai lu quand je me suis vraiment mis, c'est un Saigromita, puisque c'était le Strange Special Origin pour les 30 ans du personnage. Et dedans, tu avais une histoire de Romita, qui était une histoire en hommage à Gwen Stacy.
Ouais,
donc
ouais,
c'était l'histoire de Gwen par Mary Jane, et c'était dessiné et ancré par parce que ça aussi je trouve qu'en fait Romita est encore plus beau quand il s'ancre lui-même aussi. J'aime beaucoup et cet épisode qui fait quoi 4-5 pages même pas, mais t'as toute la narration magnifique, enfin moi qui connaissais peu toute l'histoire de Spider-Man et tout, ça m'a appris énormément de choses et c'était passionnant à lire encore aujourd'hui. Je me suis relu quelques heures avant qu'on fasse cette émission. Pareil, ça se lit mais magnifiquement. Et juste derrière, à l'époque, donc Vive les bouquinistes, il y avait les albums de l'araignée. Et pour le coup, c'était la fureur du rhino. Voilà.
Ouais.
Donc, et c'est comme ça que tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est mortel.
Ouais, parce que Lug ressortait les classiques de Spider-Man en grand format dans les albums de l'araignée. Et ça, effectivement, c'était le meilleur point d'entrée pour découvrir Spider-Man, parce que tu avais les meilleures histoires en format géant, avec le papier adéquat, la colorisation adéquate, les traductions adéquates. C'est sans commune comparaison avec les intégrales de Panini, hein, qui ont quand même des petits problèmes de traduction.
Ils avaient quand même enlevé encore des épisodes. Le lézard, ça ne passait pas encore à ce moment-là.
Oui, oui, par contre, effectivement, la censure était toujours là. Mais t'as, c'est un peu ces épisodes-là, l'exemple à suivre, si, comment écrire du bon Spider-Man, en fait. Hein, parce que la vie privée de Peter Parker qui ne sait pas entre quelle femme choisir. Il y a de l'évolution quand même dans sa vie, puisqu'il va quand même s'éloigner de Tante May. Les scénaristes actuels ont quand même bien du mal à faire. Pareil, quand on parlait de Betty Brant, la fin de sa relation avec Betty Brant, c'est effectivement, c'est mature, c'est bien écrit, c'est cohérent, ça coule de source. Ils pourraient prendre exemple sur ça s'ils veulent vraiment séparer Peter Parker de Mary Jane. Il n'y a pas d'histoire de terre parallèle, de voyage dans le futur, de contrat avec Mephisto ou je ne sais pas quoi pour terminer une relation amoureuse. Quoi. C'est,
c'est juste.
Tu peux le faire naturellement aussi. voilà. Finalement, ça ne marche pas. On se revoit bientôt. Tu n'es pas obligé de bouleverser la réalité de l'univers Marvel pour conclure leur relation.
C'est encore une époque où tu pouvais te dire qu'en fait la vie de Peter va continuer, il va continuer l'université, il va se marier, il va trouver un boulot, il va se marier, il va rester. Enfin, t'imagines pas encore à cette époque, en fait, tu dis par rapport à aujourd'hui où de toute façon à un moment tu bloques sur soit t'arrêtes la série et avec une évolution du personnage, à un moment tu mets end, soit tu sais que ça va continuer, mais dans ce cas-là, foncièrement, le personnage doit rester figé dans un état, dans un certain état. Et à cette époque-là, tu sens vraiment que le truc continue, évolue et grandit, quoi.
Là, tu sens qu'ils ont fait le tour de la question sur certains trucs et qu'ils décident de passer à autre chose. Hein.
Mais je crois que ça vient de l'influence de Romita des strips. Parce que dans Thierry et les Pirates, c'est ça, en fait. C'est quand tu dis Thierry et les Pirates de Milton Caniff, les personnages, en fait, ils évoluent, ils vieillissent. Thierry, il commence comme un gamin, et puis ça devient un jeune homme, il entre dans l'armée. Il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui se marient, ils ont des romances. Et en fait, la narration continue, prend en compte, en fait, l'évolution à chaque fois du perso. Ils ne font pas du sur-place.
Ou du rétropédalage.
Moi, c'est un peu ce que je reproche à cette théorie qui a été lancée, comme quoi, alors c'est visiblement c'est Stan Lee qui l'aurait lancé. On donne l'illusion du changement au lecteur, et en fait, c'est comme ça. Alors qu'en fait, non. Pendant longtemps, Marvel, ça a été du changement. C'est peut-être pas du changement du tout au tout. Mais il y a des changements qui sont progressifs, il y a des changements dans les détails. Sauf que la force de Marvel, c'était pas de revenir continuellement pour effacer en fait voilà, tu avais une progression et t'essayais en fait les auteurs qui arrivaient essayaient d'avoir une progression logique par rapport à la vie de ces personnages. Les prenaient comme si c'était des personnages qui avaient vraiment une vie qui existait. Et alors après, je comprends que au bout de 30-40 ans, ça commence à être compliqué à suivre, mais c'est le taf, quoi. C'est le taf de
c'est là le challenge.
C'est le challenge. Bon, après savoir, aussi, maintenant, il y a tous les problèmes aussi de merchandising, de licensing. Tu peux pas changer un personnage parce que tu as des jouets, tu as des téléoreillers, tu as le film, tu as ceci, tu as cela. Mais c'est vrai que Spider-Man, pendant longtemps, et je pense que ces épisodes-là, ils sont super importants parce que c'est les épisodes, effectivement, qui montrent la marche à suivre. Pour faire progresser Spider-Man de façon à la fois très rapide et en même temps très mesurée dans les épisodes. C'est des petites touches par épisode. Mais pendant longtemps, Spider-Man, ouais, ils n'ont pas eu à changer le costume, ou ils n'ont pas eu à changer, ils ont un peu mis le costume noir et blanc dans les années 80, mais c'était vraiment pour une storyline précise. Mais ils ont quand même réussi à faire progresser le personnage. Et puis à un moment donné, ils se sont retrouvés avec le mariage Micheline s'en est bien tiré. Et après, on dirait qu'ils ont baissé les bras, qu'ils n'ont pas voulu en fait essayer
ils ont blacklisté l'idée de divorce, hein, j'ai l'impression, parce que je veux dire la suite logique c'était de faire un divorce quoi, mais
ouais, ou le bébé ou un enfant
ou un enfant.
Spider-Man papa, ça aurait été ça aurait eu son sens.
Je pense que autant il y a quelques temps j'aurais dit bah non, mais en fait plus j'y pense plus je me dis en fait ça fonctionne, et peut-être parce que il y en a, t'as des. Slot avait fait avec une mini-série justement une famille avec l'enfant, et tu te dis, et où il y avait eu le Spider-Girl dans une alternative. Bon.
Ouais.
Mais finalement, tu te dis, ouais, je pense que ça fonctionne. Après, ils ont toujours. Je ne sais pas pourquoi ça peut bloquer, mais peut-être qu'en effet, tu as toutes les considérations économiques qui font que. On pense qu'il faut figer le personnage dans un.
Moi, je pense qu'il y a des considérations éditoriales aussi, parce que Spider-Girl, ça a beaucoup marché. Ça a très bien marché, en fait, sauf qu'ils ne l'ont jamais mis en avant. Parce qu'ils étaient embêtés avec cette idée qu'il y avait une série qui marchait bien avec May Parker, et que ça contredisait un peu le fait que le mot d'ordre, c'était de dire « Ouais, non, mais en fait, Spider-Man, il faut qu'il soit célibataire, il faut qu'il soit jeune, ceci, cela. » Et en fait, c'est prendre le problème... à l'inverse, en fait, c'est prendre le problème du mauvais côté, parce qu'en fait, la vraie force de Spider-Man, c'est pas forcément d'être jeune, puisqu'on le voit bien. Il est resté au lycée le temps des années de Steve Ditko, et même Steve Ditko, à un moment donné, il s'est dit, on peut pas le laisser au lycée dans 7 ans, il faudra bien qu'il aille à l'université à un moment donné. Et il le fait passer à l'université. Donc en fait, il a le créateur de... En tout cas, le co-créateur de Spider-Man et les deux créateurs, puisqu'il y avait aussi Tani dans le coup, ils avaient déjà dans l'idée de le faire mûrir et de le faire passer à l'âge adulte. Donc c'est pas déconnant en fait de continuer à le faire passer à l'âge adulte. L'important avec Spider-Man, c'est que le personnage soit proche de nous, c'est-à-dire qu'il ait les réactions, et dire que ouais, des gamins, ils ont envie de lire juste sur un ado parce que ils sont ados, bah non, en fait. C'est-à-dire que c'est t'as plein de personnages que tu aimes bien, qui te ressemblent pas, qui sont pas à l'école. Enfin, moi, je sais que très honnêtement, quand j'étais gamin, je voulais pas lire des choses sur des héros qui allaient à l'école, quoi. Moi, ça me gavait, quoi.
Tu vois bien, enfin, quand tu vois les quatre fantastiques, l'arrivée de Franklin a fonctionné, quoi. Enfin, foncièrement, ça fonctionne aussi, quoi. On en revient à ce que tu dis, hein. C'est une question aussi de savoir écrire, de savoir penser le truc. Et ouais, il y a de l'audace aussi, hein. C'est Spider-Man, en effet. Moi, ce que j'avais toujours trouvé génial quand je lisais, c'est le fait de le dire, il commence au lycée, il y a l'université, il va se marier. Et puis, ouais, c'est ces considérations. Foncièrement, Spider-Man, il se définit par le fait de rencontrer des difficultés, d'être écrasé par elle parfois, d'être face à des dilemmes, en fait. C'est surtout ça, d'être face à des dilemmes liés à ça, et de prendre et de faire le choix, et de voir un peu comment ça peut fonctionner. Et ça, ces questions-là, bah, tu les as toute ta vie, quoi.
Ouais, et c'est ce que montrait aussi Roger Stern. Roger Stern, il a aussi passé un autre stade, puisque dans les épisodes de Roger Stern, il lâche l'université. Pour devenir un freelancer à temps plein. Et on se disait que il avait sûrement en tête de faire quelque chose. Alors lui il est parti justement parce qu'il voulait pas mettre Mary Jane et Peter ensemble. Mais si tu replaces en fait dans le contexte, il a plutôt raison, parce qu'en fait, lui, il dit, bah non, il vaut mieux continuer à ce que Mary Jane, elle lui casse ses coups, et continuer à faire le... Puisque au moins comme ça, il peut faire progresser, ramener des nouveaux personnages féminins, le faire continuer dans sa vie d'adulte. Et voilà, et c'est comment dire, en fait, c'est le j'ai l'impression que là, ces dernières années, tu vois, sur Spider-Man, ils ont trouvé comment faire progresser Peter, sauf qu'ils l'ont trouvé dans autre chose que dans la vraie série Spider-Man, c'est avec Miles Morales. C'est-à-dire que d'avoir un deuxième Spider-Man qui prend sa place, lui en tant que mentor, et lui qui peut lâcher enfin le poids d'être Spider-Man et s'occuper de sa famille, c'est ce qu'il fait dans le Spider-Verse. Et dans le... Sauf que en fait, c'est un Spider-Man d'une terre parallèle différente et le Miles Morales. Alors qu'en fait, il l'aurait fait dans la série, en fait, avoir un sidekick qui reprend le
flambeau, d'ailleurs.
Qui reprend le flambeau et lui qui devient, tu vois, papa. Franchement, c'est honnêtement, c'est mieux que tout ce qu'ils nous ont fait ces 20 dernières années, comme tu dis, avec Mephisto, Spider-Man qui n'arrête pas d'être... Peter Parker qui n'arrête pas surtout d'avoir la loose, quoi. Et où tu dis, le mec, c'est un handicapé social, quoi, par moment.
Dans les derniers épisodes là, qui sont sortis par Zeb Wells, là, c'est... Il est vraiment limite, Peter Parker, quoi.
Ouais, je veux bien qu'il ait de la malchance, qu'il y ait la Parker Luck, ou je ne sais quoi, mais même la Parker Luck, franchement, c'est un truc qu'ils ont inventé au débeauté, hein. Quand j'étais gosse, j'avais pas l'impression que Peter Parker c'était un loser.
Non.
Peter Parker, il avait des problèmes normaux, fait. Et c'est juste que les problèmes normaux, bah, c'est déjà des problèmes en soi. T'as pas besoin de lui rajouter, tu vois, de le faire devenir SDF, en fait. Le faire simplement. Ce qu'ils ont fait là, quand il devient multimillionnaire, qui dirige une boîte, et puis d'un coup, il est fauché. C'est tellement énorme que tu te dis, Alors c'est les mêmes qui te disent, il faut qu'ils soient proches de nous, mais ils en font un simili Tony Stark. Donc.
Ouais. Non.
Je trouve que c'est pas.
T'as le jeu vidéo aussi de Sony.
Oui.
De voir la suite. Qui pour le coup, pareil, il osait un coup de dé dans le sens. Moi, ce que j'ai apprécié dans le jeu vidéo, c'est d'ailleurs le traitement de Mary Jane où. Ils t'en font pour le coup une journaliste. Et le fait que le jeu vidéo se passe justement, il est Spider-Man, tout ça. Mais là où je trouve qu'ils osent aussi une évolution, c'est le côté de se retrouver face à un dilemme classique qui est-ce que je dois sauver une personne que j'aime ou je dois en sauver toute la ville, la personne qu'il aime étant Tante May. Et le jeu osant à la fin de le fait que Spider-Man va sauver la ville en sacrifiant Tante May en. En fait, il y a un médicament qui fait qu'en gros, le médicament, si tu le synthétises, ça va sauver tout le monde qui sont atteints dans la ville, sauf qu'il faut du temps. Sauf que la Tante May, qui est tout de suite malade, a besoin du médicament tout de suite, et si tu lui donnes, tu ne peux plus le synthétiser. Donc, il est obligé de sacrifier, bon, sachant qu'elle est consentante, puisqu'elle lui dit elle-même. Mais pour le coup, il y a vraiment aussi cette envie d'aller, de dépasser, de le faire grandir, toujours en étant face à un dilemme. Mais là, pour le coup, on laisse de côté un personnage historique et on va voir après comment ça va faire plus tard. Il y a aussi une évolution qui est bien pensée de essayer de lâcher ces personnages, quoi. Et ce que tu disais par rapport avec Miles Morales, bah, ça me fait penser un peu ce que chez DC, ils arrivent à faire avec Flash, quoi. C'est arriver à transmettre avec Wally, avec Jay Garrick, avec la famille Wally West et ainsi de suite, quoi. Pour le coup, ils arrivent vraiment à créer toute une fratrie de personnages où chaque personnage, dont le central, arrive à continuer à évoluer et à grandir sans être figé dans son costume, quoi, on pourrait dire.
Bah, en plus, ils avaient fait, faisons imaginons complètement qu'il n'y ait pas eu cet univers Ultimate et qu'il l'ait fait en fait dans l'univers. Total, en fait, d'avoir un Spider-Man qui arrive comme Miles Morales et qui prend la place de Peter Parker. Alors, je dis pas forcément de tuer Peter Parker, mais de le faire plus. En fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Ben Reilly.
C'est ce que j'allais dire.
Dans les années 90, sauf qu'ils le remplacent par un clone. Et en fait, ça ne marche pas. Là, mmh. le fait avec Miles Morales d'avoir un Spider-Man plus jeune, inexpérimenté, ça aurait été plus un plus positif et deux plus logique. Et c'est vrai que mais tout aussi surprenant. C'est-à-dire que t'aurais quand même eu le héros numéro un de Marvel qui raccroche les gants. Et on voit bien pourquoi c'est pas possible, parce que t'es obligé d'avoir un comic Spider-Man avec Peter Parker dedans pour que le personnage y ressemble au personnage qui est licencié. Mais je sais pas, c'est. De toute façon, on est passé en fait ces 10 dernières années, 15 dernières années à un stade où c'est tellement le foutoir en termes de continuité partout que de toute façon, comment dire, le personnage il a perdu déjà pour moi de cet attachement. J'ai beaucoup aimé la période Brand New Day avec pour le côté un peu justement storyline qui s'emboîte, les différents scénaristes, le côté un peu new-yorkais de la chose. Il y a quand même un truc qui est cassé à partir du moment où tu fais le mariage avec Mephisto. C'est-à-dire que j'ai beau pas être grand fan de la période Straczynski, au moins le traitement de Peter et Mary Jane, la façon dont il les écrit et dont il fait Peter, Mary Jane, Tante May, pour moi, ça se rapproche plus du vrai Spider-Man entre guillemets, que il devient prof, il est responsable, il a des responsabilités. Bon, tout son bazar avec les totems et les trucs comme ça, je trouve ça complètement hors sujet, mais à rigueur, pourquoi pas, tu vois. Enfin, au moins ça change, c'est différent, il y a un truc un peu mystique. Mais une fois que tu ramènes Mephisto dans l'équation, que t'as, c'est complètement cassé. Il casse le jouet, quoi. Il peut plus être. On sait quelque chose de lui que lui ne sait pas. En plus, plus ça fausse complètement la relation que tu as avec avec.
Alors moi, j'ai jamais lu les épisodes avec Mephisto, mais. Ça veut dire qu'il a conclu un pacte avec Mephisto, alors, à un moment donné. C'est Mary Jane qui a conclu le pacte.
Mary Jane, ouais.
C'était parce que Tante May s'est fait abattre, blessé mortellement lors de...
De Civil War.
Parce que dans Civil War, donc
Tante May qui était déjà morte une fois, quand même.
C'était une actrice. J'oublie. Ouais. Et du coup, dans Civil War...
Elle a été capturée par le cambrioleur.
Et donc dans Civil War, Parker révèle son identité à tout le monde. Donc les gens, les ennemis veulent.
Oui, voilà, il fallait faire oublier son identité aussi.
Tante May se fait abattre. Et du coup, il veut tellement pas qu'elle meure que finalement Mephisto lui dit écoute, je peux la sauver, mais en échange, je veux quelque chose de plus fort qui est l'amour de votre mariage. Enfin, de fou, donc en gros, c'est tu renonces
je
à ce mariage.
C'est ce que Kezana a décidé.
et Tante May sera vivante. Et du coup, à ce moment-là, dernière journée ensemble, lui et Mary Jane. Et le lendemain, en fait, le truc, c'est que Tante May est vivante, mais en fait, c'est. On revient en arrière. En gros, c'est. Elle est vivante. Parker, en fait, Harry Osborn revient. Qui était mort. En fait, c'est comme si tu revenais 30, peut-être pas 30 ans, mais finalement 20 ans en arrière. Bah, 20 ans, en gros, avant le mariage et tout ça.
Sauf que c'est au présent. Ils expliquent qu'ils n'ont jamais été mariés.
Voilà.
Harry Osborn, il n'est jamais mort. Tu sais pas pourquoi, mais il est là.
Le truc, c'est que même Parker ne le sait pas. En gros, c'est comme
si. Ouais.
C'est ce que dit Isaac. C'est que toi, en tant que lecteur, tu découvres un nouvel postulat. Mais. Personne dans ces comics ne le sait, en fait. Donc, c'est comme si tu lisais une nouvelle série Spider-Man à ce moment-là, quoi. Donc, c'est. Et foncièrement, ça casse tout, quoi. Même si c'est vrai que la période qui suit, avec le recul, c'est vrai qu'elle est assez agréable à lire. Mais sur un autre postulat. Enfin, c'est totalement. Totalement loupé. Et du coup.
Tu te dis surtout à tout moment que en fait tout peut être invalidé.
Oui, 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 c'est ça.
C'est et ça.
Et c'est dingue parce qu'en effet, c'est prendre. C'est cracher sur justement cette idée de Parker. Il a des dilemmes, mais il assume ce qu'il il va faire un choix, mais il va assumer ce choix après derrière. Il se casse pas en courant, justement. Parce que justement, se casser en courant, il l'a fait une fois et son oncle est mort. Donc ouais. Foncièrement, Spider-Man, il ne fuit pas. Spider-Man ne fuit pas, en fait. Il va être face à l'idem, il va souffrir face à ça. Il serait très bien qu'il aura, même si c'est le choix entre deux mauvaises solutions. Mais il fera le choix et il gardera le truc, quoi.
Ouais, du coup, un mec qui renonce jamais, c'est ce qu'on retrouve dans les épisodes de Romita, justement. Où on a visiblement ce Peter Parker qui est confronté à la fois à ses problèmes de la vie courante et l'explosion de super vilains qui arrivent dans tous les sens, quoi. C'est
anciens ennemis,
la grippe, un bras cassé, ouais. Tante May qui est malade, Gwen Stacy qui répond pas à ses avances, Mary Jane qui est pas très sérieuse.
J'aime bien comment Mary Jane l'accompagne la première fois pour aller voir le Rhino.
Mmh. Ouais.
En fait, il se dit, ah, c'est super, j'ai pas besoin de trouver une excuse, en fait. parce qu'il voit l'attaque du Rhino à la télé. Du coup, c'est Mary Jane qui dit, ah ouais, il faut absolument qu'on y aille. Ce qui sera expliqué des années plus tard par Jerry Conway quand il expliquera que Mary Jane, en fait, elle sait depuis le début que Peter Parker, c'est Spider-Man. Et en fait, elle fait semblant de vouloir aller sur le lieu d'action parce qu'elle sait que Peter va devoir intervenir, quoi.
C'est une super idée. Ça.
Bah, à la relecture, en fait, ça tient. Quand tu lis les épisodes justement de Romita.
C'est pour ça que je trouvais que, pour le coup, c'était une super idée parce qu'elle tient. C'est vraiment. Quand tu relis, tu dis non, mais l'idée, tiens, c'est pas sorti du chapeau. Allez,
parce qu'elle lui fait pas de reproche quand il disparaît des scènes de crime ou d'action.
Ah ouais. C'est vraiment l'idée rétroactivement qui fonctionne bien. Je te dis pas à un moment, non, mais là, ça bloque, ça passe pas. Si, en fait, ça passe très bien. Elle sait depuis le début.
J'aime bien aussi l'espèce de rivalité qu'il y a entre Gwen et Mary Jane.
Qui s'installe comme ça tout doucement.
Ouais. Ah, ça, c'est qui est donc tiré des Archie Comics de Betty et Veronica.
Ouais.
C'est pour Archie Andrews.
Archie qui est Flash Thompson, en fait.
Ouais, qui est. Ouais. un méchant
Archie. Un méchant Archie. Flash Thompson.
Mais c'est trop vrai en plus.
On n'y a jamais vu ça comme ça.
Ouais. J'aime bien, il y a le retour de. Et puis je trouve qu'il arrive bien, Romita, à reprendre un peu les personnages de... Donc il crée des nouveaux super-vilains. J'aime bien le Shocker. Je trouve qu'il a un super look.
Le Shocker, le Rhino, moi j'adore l'arrivée du Rhino. Qui vient depuis le Mexique à pied. Jusqu'à New York, ça rappelle un peu même l'arrivée de Doomsday ou de trucs comme ça.
Du fléau. La radio.
Du fléau, le mec inarrêtable. Mm. Ouais, tu l'entends à la radio.
J'aime bien le Rhino parce que c'est le mec, c'est bon, vous m'avez rendu intelligent, maintenant je vous bute tous.
Ouais, c'est ça aussi. Moi, j'aime bien ça. Et puis je trouve qu'il ne flingue pas les personnages de Ditko. Non. Les vilains de Ditko, ils sont cool, quoi. Craven, je le trouve même légèrement mieux sous Romita que sous Ditko. Là, quand
même le lézard. Hein.
Ouais, le lézard, de toute façon, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment le genre de perso que j'aime pas du tout. Le monstre malgré lui.
J'aime bien comment il se fait se mélanger les intrigues avec les méchants. Hein, parce que t'as vite fait des épisodes où d'un seul coup t'as deux méchants au lieu d'un, le John Jameson et en même temps le Rhino, après Kraven et le Vautour.
Ouais, c'est ce qu'ils essayent de faire un peu dans le Spider-Man 3 et dans les.
C'est pas aussi
réussi. Mais tu vois que. Tu vois qu'ils ont vraiment. Que Rémy il a vraiment.
Tu sens que c'est vraiment les épisodes référence. Hein, ouais. Parce le nouveau tour aussi, c'est...
Ouais, ouais, le nouveau vautour, ça ressemble vachement à ce qu'il pourrait faire Rémi. Puis le t'as une baston sur un immeuble en construction comme le troisième.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment.
Ouais, et puis la version de Tantré, c'est la même que.
Ouais. Que et puis là, la moto.
Ouais.
Moto, là, j'adore. La moto, ça devient un motard.
C'est un vrai punk, quoi. C'est...
Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il a peur de le dire à Tante May, puis Tante May, en fait, il s'en fiche complètement.
Ouais. Tante May qui va habiter avec Emma Watson, c'est ça ?
Ouais, Anne Watson.
J'aime bien quand il a toujours ses peurs face à sa tante et qu'il lui montre à chaque fois qu'en fait, elle est plus forte que ce qu'il pense, quoi, tu vois. Le côté de « Ah, bah, je vais habiter ailleurs, comment je vais le dire à Tante May ?» Au final, c'est elle qui se dit « Non, mais c'est moi qui pars.
» Ouais. J'en ai marre, c'est trop grand, on va habiter.
L'arrivée de Harry à l'école avec son père qui l'accompagne, c'est vraiment le
Sam Raimi.
Mais alors j'ai jamais fait gaffe, mais là c'est incroyable, quoi.
Mais il y a plein de petites scènes comme ça. Bah, de toute façon, la reprise la plus la plus connue, c'est quand même dans le 50, Spider-Man No More avec le costume dans la poubelle.
Bah t'as ça. Mais en image iconique, t'as aussi le bouffon vert qui trimballe Spider-Man, qui est à moitié en habit de Peter Parker et à moitié avec le costume déchiré.
Trop bien, c'est trop bien. La révélation de comment est-ce qu'ils expliquent un peu tout le bazar de Norman Osborn, c'est vachement bien fait. Et le fait que et en plus il apporte l'idée que il n'est pas tout à fait net dans sa tête. Le truc qui va vraiment servir sur 40 ans. Et c'est super bien foutu, en fait, par rapport au... Parce que je pense pas que c'était vraiment ce qu'avait Ditko en tête. Mais l'idée que le bouffon vert, en fait, c'est la personnalité maléfique de Norman. Que Norman, il était quand même pas sympathique, mais la description de Norman avant qu'il pète les plombs, c'est déjà vachement bien, tu sais, quand il emmène Harry au match de baseball et en fait il parle pas avec Harry. Il revient, on regarde le match de baseball. En fait, il est persuadé, et dans le narratif en plus, ce qui est fort, c'est que dans le narratif, donc toi tu vois la scène comme elle a été, c'est-à-dire avec Harry qui essaie désespérément de discuter avec son père, mais l'autre il calcule pas. Et dans le narratif, t'as Norman Osborn qui dit « J'étais un bon père, j'ai tout fait pour lui. » Il est complètement perché. Et en fait, finalement, c'est pas... tu sais, pour les critiques qu'il y a souvent sur les comics des années 60 qui plongeraient pas dans la psyché des personnages, mais ça raconte quand même pas mal de choses sur la paternité, sur... tu vois, ça sent le vécu, quoi. Ça sent le vécu avec le père businessman qui va pas... qui a plus de temps pour s'occuper de ses mômes, et c'est fait en utilisant vraiment astucieusement, en fait, cette idée de flashback d'origine de méchant, tu vois.
C'est hyper pour le coup moderne, parce que nous, comme tu dis, tu lis ça aujourd'hui et pourtant ça fonctionne, mais à l'époque tu te dis, on est quand même face à un conflit générationnel qui est important, c'est-à-dire des mecs comme Norman, c'est des gens qui sont quoi, ils sont nés dans les années 20. Les années 20, c'est les mecs qui ont connu la crise de 29, c'est les mecs qui se sont battus là-dessus, ils se sont mangés la Seconde Guerre mondiale. Et derrière, on a des enfants qui sont justement des enfants de fin de cette guerre, enfin qui sont nés pendant la guerre, mais qui sont en fait des enfants qui ont connu l'âge d'or, on va dire, américaine, mais qui ont aussi des demandes que n'ont pas eu leurs parents, parce que ces parents-là n'avaient pas le choix. Et du coup, ce qui fait, qui pour moi est aussi une des clés du succès de Spider-Man, parce que ça répondait probablement à une demande d'un lectorat qui n'avait pas de personnage qui leur ressemblait pour le coup à ça. Quoi. Et du coup, ça fonctionne super bien, parce qu'on te montre quelque chose qui... qui n'y avait pas avant. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que ce soit des problématiques que des jeunes des années 30 ou 40 avaient vis-à-vis de leur père. Ils n'étaient pas dans cette demande-là. Ça fonctionne. Enfin, tu n'avais pas des monnaies pour ça.
C'est vrai aussi que le fait que Peter soit plus jeune, en fait, généralement, que les super-vilains qui combattent, en fait, rien que physiquement, tu as déjà ce conflit de génération, en fait, qui était peut-être moins présent chez Steve Ditko. Parce qu'il s'attaquait plutôt à des comment dire, c'était soit des gangsters, soit des figures plus d'autorité scientifique et de choses comme ça. La science dévoyée, des choses plutôt dans ce genre-là. Et il y avait un plus gros respect, je pense, chez Ditko, des générations précédentes, parce que Ditko, il est quand même plus conservateur que Romita. Chez Romita, effectivement, le conflit générationnel est plus accentué avec, que ce soit Jonah, que ce soit avec l'arrivée du capitaine Stacy, qui est pourtant un personnage un peu plus montré comme positif que Jonah Jameson, mais qui va quand même devoir, à un moment donné, arrêter Spider-Man avec toute l'affaire de la tablette, là. Y a ça aussi, la tablette magique qui est censée te donner la cure de jouance. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, en fait, c'est dans les épisodes après où ils poursuivent tous une tablette qui. C'est comme dans La Dernière Croisade où en fait le Graal te. D'ailleurs, ça finit comme La Dernière Croisade où en fait le Silverman, qui est donc le patron de la mafia et qui est complètement décrépit. Se sert de la tablette pour rajeunir, sauf qu'il rajeunit tellement qu'il
est réduit. Il est un bébé, non ?
Voilà. Il va plus loin, ouais. Ouais, et c'est effectivement, t'as ce côté conflit générationnel. Même dans le Spider-Man Magazine en noir et blanc, là, numéro 2, qu'ils ont sorti dans les années 60, il combat un politicien qui est là, qui est, pour le coup, qui est genre Nixon, quoi, qui se sert de la télé en fait pour faire des appels un peu à la violence et puis qui prend en grippe Spider-Man. Enfin il y a ce côté effectivement conflit de génération des années 60 qui est au sein de ces épisodes là effectivement qui est pris en compte. Ce qui est marrant, c'est que Romita, il avait déjà parce que Romita, il a fait la guerre de Corée, je crois. En tout cas, il a fait son service militaire pendant la guerre de Corée. Si je dis pas de bêtises, il a été en tout cas appelé sous les drapeaux et il est né en 1930. Donc ça veut dire que
35-36 ans. Quoi.
35-36 ans, ouais, quand il est et son fils. Quand je regarde juste la date de naissance de John Romita Jr., ça serait aussi intéressant de voir. Tu vois, il avait 10 ans, John Romita Jr., quand Romita dessinait Spider-Man. Donc, tu vois aussi que, ouais, il se pose peut-être aussi la question, il sait peut-être, tu vois, de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer pour mon gamin quand. Parce que c'est quand même une période de gros bouleversement. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour mon gamin dans les prochaines années c'est intéressant en fait. C'est intéressant.
Tu vois le truc, c'est jamais dit. Enfin, en tout cas dans les épisodes que j'ai relus, Flash à l'armée, tu sais très bien que Flash doit partir au Vietnam à ce moment-là. Ouais. Alors ça pour le coup c'est assez occulté, mais c'est vrai qu'il peut se poser déjà aussi ces questions-là. Et... Enfin, pour le coup,
ils ont fait des épisodes de Flash au Vietnam, mais qui est un peu sont des épisodes un peu fantaisistes, en fait, un peu traités façon Thierry et les pirates. Où en fait, là, pour le coup, il a fait. Et Romita disait que ça faisait partie de ses épisodes préférés, parce que du coup, il s'est complètement lâché. Parce que, bon, Thierry et les pirates, ça se basait beaucoup. Il y avait beaucoup d'aventures qui se basaient dans les péninsules chinoises, dans tous ces environnements-là, Macao. Tu as ça, c'est dans les épisodes. Je regarde en vitesse, mais je crois que c'est l'épisode où on voit Shashan aussi. Et c'est où Spider-Man va aussi au Vietnam pour retrouver Flash Thompson. J'ai plus les numéros en tête, mais en gros c'est cette période là quoi. Mais c'est vrai que oui, les Marvel Comics à l'époque faisaient partie de cette contre-culture. Alors c'était plus plus anti que d'autres contre-cultures qui étaient plus contestataires. C'était la contre-culture un peu plus fantaisiste, un peu plus agréable. On a quand même. Enfin, ils font partie d'une époque où ça bouge quoi, où ça évolue. Effectivement,
ils sont inscrits dans leur époque.
Ouais.
Ouais, il l'accompagne, il l'illustre, quoi. C'est vraiment.
Et je trouve que le fait d'avoir justement un papa en fait qui est en train de faire ces épisodes-là, ça rend les épisodes moins vieillots que d'avoir juste de la contestation pour la contestation. Et que du coup, tu as une espèce d'équilibre qui se crée et tu peux regarder ça en ayant effectivement ce décorum qui est là et puis quelque chose qui va au-delà parce que finalement, la description des relations qu'il a avec ses amis, des problèmes de boulot, en fait, cette articulation qui est permanente, là où il essaye de mener ses deux vies de front, eh ben, c'est hyper agréable en fait à la relecture. C'est très effectivement le quotidien, c'est ce qui rend le personnage toujours très, très attachant. Quoi. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivaient justement à ce que les épisodes soient très sensationnels en termes de combat. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin et que je lisais vraiment là où il se bat sur le toit avec le vautour et puis qu'il a qu'il est enrhumé et qu'il tombe dans les pommes sur un toit enneigé, la planche, moi je la trouve hyper dramatique en fait. Et pourtant, c'est trois fois rien, c'est juste Spider-Man qui combat contre le vautour. Aujourd'hui, ils sont obligés. On avait bien aimé No Way Home, mais tu vois, ils sont obligés d'avoir le ciel qui s'ouvre, des dimensions parallèles, un combat sur la Statue de la Liberté, trois Spider-Man pour faire du drame, quoi. Alors que là, c'est juste Spider-Man qui se frite en hiver avec le vautour et il a la grippe, quoi. Et pourtant, t'as la même intensité, je trouve.
Ouais, mais ça c'est quand t'as la grippe, tu le comprends vachement. Je pense que tout le monde a eu.
C'est vrai.
Tu sais. Oui. Et tu te dis à quel point si tu dois aller au boulot avec ça.
Ouais, voilà, exactement.
Pas sûr que finisses la journée.
Ouais, je crois que je crois que je les avais lus justement quand j'étais à l'école et que j'avais la grippe. C'est ces épisodes donc avec un bon rhume et tout. Tu dis ouais.
Ça fonctionne bien.
Le pauvre.
Non, c'est vraiment génial.
Ouais, bon, ça fait partie des meilleurs épisodes de Spider-Man, je pense.
Ever. Mais c'est ce qu'on dit aussi, c'est. Tu te dis. Tu penses Spider-Man, t'as l'image du Spider-Man de Romita, quoi, qui apparaît.
Ouais.
Et ça, des dessinateurs, il en a eu, et puis il a eu Ditko, quoi, qui l'a créé et tout ça, qui a posé aussi tout l'univers, mais. Mais ouais, fondamentalement, c'est Romita qui est un peu la... Je veux pas dire iconisée, parce que c'est bateau comme terme, mais...
Il a pas fait la version définitive, quoi.
Ouais, peut-être, en tout cas...
clairement, quoi.
La version définitive. C'est-à-dire qu'il a affiné encore plus ce qu'a fait Ditko, mais je pense que ça tient autant au personnage, enfin, en tout cas, tel qu'il le dessine, mais aussi parce qu'il a créé un environnement, un univers derrière. Moi, si j'aime Spider-Man, c'est pas... Quand je dis j'aime Spider-Man, c'est j'aime pas que Spider-Man. J'aime Spider-Man parce qu'il y a Mary Jane, il y a Gwen, il y a Harry, il y a Flash, il y a le Daily Bugle, il y a tout ça. C'est comme Superman. Si j'aime Superman, si Superman est tout seul, en fait, je veux pas dire que ça m'intéresse pas, c'est faux. Mais si j'aime Superman, c'est parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Là où tu as d'autres personnages, ils sont intéressants pour les ennemis qu'ils combattent, pour ce qu'ils sont eux. Mais Spider-Man et Superman, c'est parce qu'il y a tout un environnement derrière qui c'est passionnant. Et que quand tu travailles sur eux, il faut que tu travailles tout ça aussi.
Bah, tu vois d'ailleurs, c'est ce qui a planté un peu les Amazing Spider-Man de Mark Webb. Parce que du coup, ils ne prenaient pas le Daily Bugle. Tu vois, ils essayaient de faire complètement l'environnement inverse de ce qu'avaient fait les Rémi. Et ils se retrouvaient, ils se retrouvaient coincés avec pas grand monde, quoi. Ils avaient les Stacy, et le capitaine Stacy, il meurt dès le premier épisode. Donc, t'as plus que Gwen, et en fait, t'as plus rien à faire de... Ils ont ramené Oscorp, mais tu vois, Oscorp, ça fait pas partie, c'est ce que tu dis, ça fait pas partie de l'environnement de Spider-Man. C'est pas son truc, en fait, d'être dans une
multinationale.
Multinationale, une grosse boîte qui construit des super vilains. Ce n'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Lui, c'est vraiment... il doit avoir un ancrage très réaliste avec des gens qui sont ses potes. Ça doit pas être... ça peut pas être uniquement Johnny Storm, tu vois, son pote. Il doit avoir comme pote des gens normaux qui ont des problèmes normaux, qui croisent dans un environnement normal. Parce que sinon, tu ne peux pas avoir le décalage. Et tu peux, en fait, ça sert à ce que, à chaque fois que les super vilains débarquent, tu tombes dans un environnement complètement fantasmagorique et tu as l'impression que jamais il va s'en sortir, quoi. Parce que tu l'auras vu faire aller au lavomatique, tu vois, nettoyer son costume en scred, tu l'auras vu s'inquiéter parce qu'il doit rapporter les médicaments à Tante May, il doit faire les photos pour le Daily Bugle, sinon il ne peut pas payer les médicaments pour Tante May, et il y a le loyer, et il y a ses examens, et il y a... tu vois,
c'est pour ça que le premier avec Tom Holland, je le trouve hyper réussi, parce qu'ils ont, il a super bien capté l'environnement lycée avec toute cette bande-là et tout, et je me rappelle moi qu'un des passages qui m'avait pour le coup j'étais ah non c'est fou, c'est quand il se bat avec les espèces de bandes qui sont habillées en Thor et tout ça et qui testent les armes du Vulture, et que dans la baston il y a tout le magasin où il va régulièrement chercher les sandwichs, tout ça, où t'as le mec qui parle en disant hey, sa tente elle est super bien roulée et tout ça, qui d'un coup est détruit, et toi tu fais oh putain la vache, parce que ce magasin ils l'ont construit avant, et ils ont créé comme tu vois, c'est le magasin où il vient régulièrement, il est posé, il est dans l'environnement, et et ça ils avaient super bien réussi, tout comme ils avaient réussi toute la scène quand il quitte le lycée, il va aider les gens dans son quartier, quoi. Toute la, tu sais, après à la fin il appelle Happy Hogan en disant hey, j'ai aidé telle personne et tout ça, c'est quand que je peux rejoindre les vengeurs, enfin tu vois, et pour le coup bah c'est pour ça que je trouve le premier film avec Tom Holland hyper bien réussi.
Ouais, pareil,
vraiment capté ça, quoi. Ouais, ouais.
Oui, le fait que il est sur le toit de la maison de sa copine, parce qu'il veut impressionner tout l'entourage du lycée en faisant croire que Spider-Man c'est le pote de Peter, sauf que au moment où il est sur le toit, il voit au loin une explosion, donc du coup il peut pas rester à la soirée
ça c'était génial,
c'est vraiment bien trouvé, mais c'est dans les Sam Raimi, il arrive bien aussi à faire ça avec tu sais, quand il doit aller à la soirée de représentation de Mary Jane, il regarde dans le placard, t'as son costume et le costume de Spider-Man t'as son costume cravate et le costume de Spider-Man qui sont l'un à côté de l'autre. Et il doit choisir entre les deux visuellement, tu vois, ça rend bien. Ce qui est un peu dommage, dans les Raimi, c'est qu'ils étaient tellement concentrés sur Mary Jane, la problématique, qu'il ne soit pas permis justement de varier les différents problèmes. En fait, tout revient toujours à ce problème avec Mary Jane, alors qu'en fait, le reste fonctionne super bien, tu vois. L'idée que sa tante, elle ne puisse plus payer le loyer, puis à un moment donné, il va la voir, mais elle lui dit, mais c'est pas grave, hein, je suis pas morte, je vais m'en sortir. Je sais pas, il y a vraiment des bons trucs, mais qui sont toujours piratés par cette histoire de Mary Jane. Et ils auraient dû faire, effectivement, ils auraient dû aller complètement, je pense, à fond dans ce qu'on voit dans les épisodes de Spider-Man là, de Romita. C'est-à-dire de revenir avec l'idée qu'il sait pas entre Gwen et entre Mary Jane laquelle il préfère. Parce que ça aussi, j'aime bien dans le...
Ah ouais,
J'aime bien qu'ils se disent... Il est très attiré par Gwen. Tu vois que ça a sa préférence parce qu'elle est plus sérieuse, parce que voilà. Mais tu sens que, en fait, dès qu'il y a Mary Jane, effectivement...
il pense avec sa bite à ce moment-là. Il faut dire ce qu'il y a. Je crois que c'est un peu... c'est celle que j'aime, mais c'est celle aussi qui... Waouh, ça éveille des choses.
Elle a l'air open.
Ouais, c'est un peu... Je crois qu'il y a moyen, là. ça j'adore. Ça, c'est vraiment des trucs...
J'aime bien aussi, je tiens à dire que je dois être le seul fan au monde de Blacky Drago.
Ouais, donc moi aussi, j'aime bien.
Le gangster qui pique les ailes du retour après lui avoir fait croire sur son lit mort, alors qu'il va lui faire croire qu'il s'occupe de lui et tout. Ouais. Tout le passage un peu... film noir,
c'est pareil.
Film du gangster et... de la... Ouais.
Et abus sur personnes âgées, en plus, c'est clairement le truc qui fonctionne toujours. Hein. C'est le nombre de personnes que tu as encore aujourd'hui. Regardez avec.
Alain Delon.
Voilà, c'est ça que j'allais dire avec Alain Delon. Ouais, je connais pas. Apparemment, il y a abus de faiblesse.
Oh là là.
Abus de faiblesse de sa.
De sa
enseignante sur Alain Delon.
Ouais, ben ouais, je trouve que Blacky Drago, en plus, il a vraiment une bonne tête de crapule.
Ah non, mais totalement pas. Je voulais pas confiance lui, à la base.
Ouais, et puis le team-up entre le Kraven et lui, c'est plutôt pas mal.
Ouais.
Le combat là.
C'est mythique ça.
Ouais,
parlait des grands combats de Spider-Man sur les toits et tout, celui-là, il est. Il reste gravé dans la mémoire.
Les combats de Romita, moi j'aimais beaucoup les combats de Ditko parce qu'il y a ce côté effectivement mêlée et acrobatie. Mais les combats de Romita, ils sont ouf. Il y a le combat avec Mysterio dans le faux parc d'attractions où il pense qu'il est réduit à l'état qu'il est réduit à l'état de Lilliputien. C'est vachement bien là avec une espèce de mystérieux géant.
Cette façon de faire, cette façon de mettre en image les grandes bagarres et tout, c'est quelque chose que tu trouvais nulle part ailleurs que dans les comics Marvel. De super-héros en fait, que dans les Marvel. Ouais. Hein,
Et même Marvel, même dans les comics, c'est-à-dire dans Marvel. Et je crois que là, Romita, il a pris exemple sur Kirby parce que c'est vraiment le milieu des années 60. Où tu vois que Kirby commence à faire vraiment des grandes cases pour les combats. Et quand tu feuillettes, d'ailleurs, les albums, tu le vois à quel point, en fait, la mise en page de Romita, elle commence à être ample en termes de cases. C'est-à-dire qu'il ne reste plus sur le gaufrier de Ditko, mais il va te faire des longues cases horizontales, des grosses cases carrées. Tu vas avoir 4 cases sur une page, tu vois. Et effectivement, c'est ce que tu dis. C'est l'action. C'est ce que disait Jill Ken. Ce qu'il disait, c'est que Jill Ken, il est parti de chez DC. Il voulait bosser chez Marvel parce qu'il se disait, mais chez DC, tu vois, il dessine un coup de poing dans l'épisode, c'est déjà trop. Alors que chez Marvel, il pouvait faire une baston sur 3-4 pages. Quoi. Donc, mais ça, c'est le fait d'avoir aussi, en gros, les dessinateurs qui sont laissés mettre du découpage de l'épisode. C'est-à-dire que tu n'as pas un scénariste et un éditeur comme tu avais chez les... Chez... Si tu lis franchement les épisodes de Superman de la même époque, c'est pas du tout la même composition, tu vois.
C'est pas la même ambiance.
Ouais. C'est en gros, Superman, il va arrêter une comète, tu vois, ou un satellite qui va tomber, mais c'est sur une case, quoi. Et avec un descriptif qui te dit Superman est en train d'arrêter un satellite qui tombe sur le... Il y a pas... t'as pas d'épisode de Superman où il se frite avec Brainiac sur...
avec en même temps le parasite qui l'attaque.
À la rigueur, le seul où il commence vraiment à prendre plus de latitude, c'est Flash.
Ouais.
Où tu sens que Carmine Infantino, ça le démange d'y aller un peu plus franco... dans les bagarres avec justement les super vilains de Flash qui sont d'ailleurs la galerie qui se rapproche le plus de la galerie d'ennemis de Spider-Man. La galerie d'ennemis de Spider-Man, ce qui est intéressant, c'est que en fait les ennemis de Spider-Man, ils ressemblent, en fait tu peux les mettre plus ou moins en double des ennemis de Batman, mais t'as pour certains, mais c'est le mode opératoire des ennemis de Spider-Man ressemble vachement au mode opératoire des ennemis de Flash, quoi. C'est les mecs qui veulent surtout braquer des banques. ils veulent braquer des banques et foutre la misère à Spider-Man, parce que la dernière fois qu'ils ont braqué une banque, Spider-Man leur a foutu la misère.
C'est un sort de vicieux, tu sais. Ils sont bien.
Bah, je crois qu'on a fait le tour.
Bah,
encore des choses que vous vouliez rajouter
sur cette période.
Période magnifique qu'on peut que vous conseiller à lire si vous voulez connaître.
Lisez tout quoi.
On n'est pas rentré tant que ça dans les intrigues de pourquoi est-ce qu'ils se battent avec les super vilains, parce que en fait très honnêtement ça a très peu d'intérêt.
Ouais.
C'est vraiment le c'est ce qui est le moins comment dire. un le moins développé, et puis c'est ce que tu retiens de toute façon le moins une fois que tu les as lus. Pourquoi ouais. est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il voulait voler au départ ouais. C'est pas le point le plus intéressant de la chose. Effectivement, à part quand il y a cette course à la tablette qui est rigolote, parce que t'as justement sur quelques épisodes, tout le monde veut mettre la main sur cette tablette pour avoir la cure de jouvence, quoi. Mais c'est vraiment le côté, ouais, tu y viens juste pour la problématique de Peter à allier ses deux vies. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est des aventures qui se lisent en, enfin chaque épisode te donne une aventure complète, donc c'est ouais. même si t'as du à
même suivre, si très, y a du feuilleton. Mais c'est ouais. quand même chaque mais, épisode. Enfin, en plus, tu peux débarquer à n'importe quel épisode.
Ouais, ça c'est super.
Tu ne seras ouais. pas perdu, quoi.
Ouais. Et je trouve que t'es pas trop. Ils insistent pas trop encore sur les. Sur comment dire. Je trouve qu'ils arrivent bien à dynamiser aussi les flashbacks.
Ouais. Moi, t'avais un savoir-faire là-dessus qui était. Qui s'est perdu un peu avec le temps.
Et puis en 22 pages, t'as énormément de choses. Moi, je suis toujours.
Ouais, ouais, ouais.
Toujours, tu vois, Spider-Man No More, tu vois, c'est, je me dis, putain, j'arrive à la 10e page et j'avais l'impression d'en avoir lu 20. Tellement il y a eu de trucs qui se passaient. Et ouais. je me dis, putain, oui. j'en vois encore 10 pages de trucs de dingue.
Ah et oui, parce que Spider-Man No More, moi, je me souvenais même plus qu'il y avait dedans, il y avait le Caïd, quoi.
Ouais, ouais.
Je pensais qu'il arrivait après. Ah non, on te le présente quand même.
C'est à quel point, il y a plusieurs fois, je me suis dit, putain, mais en fait, j'en suis que à la 10e page avec déjà tout ce qui s'est passé.
Ouais, puis, il a eu le temps de perdre une fois contre le méchant.
C'est blindé de choses. Et puis, vraiment, et pas que de la baston, quoi. C'est en 10
pages. Il te rappelle l'origine.
Voilà. Mmh. Oui, oh, putain, ça c'est. Oui, parce que de toute façon, c'est le numéro 50. Hein. C'est déjà, ça te pose un bon gros truc, quoi. Et oui, ouais, pourquoi ouais. je fais ça? Pourquoi je suis Spider-Man?
Qui est en fait, c'est une espèce de melting pot de plein de moments de la série de Ditko, puisqu'il y avait déjà eu un moment où, dans les Ditko, Spider-Man abandonné, Jonah Jameson en profitait pour passer à la télé et le pourrir. Il était tout content que Spider-Man. Mais il y a déjà, en fait, des idées de répétition.
Déjà, bah, dès le premier épisode, en fait.
Oui.
À la fin de sa première histoire, il abandonne le costume de Spider-Man, Peter,
dans Amazing Fantasy 15. Ouais, enfin ouais. c'est plus ou moins c'est plus ou moins suggéré, mais c'est pas trop comment dire, c'est parce qu'il savait pas en fait s'il allait avoir
une suite ou pas, mais, mais tu sens que c'est un problème récurrent dans le ça va lui revenir à l'esprit plusieurs fois complètement.
Parce qu'il faut
parce
le rappeler.
De toute façon, toute la saveur, c'est de savoir comment il va conjuguer sa vie de super-héros avec sa vie.
Ouais. Et puis, il faut le rappeler, Spider-Man, il le crée au départ, c'est pas pour combattre les criminels.
Ouais.
Il se crée le costume de Spider-Man, c'est pour devenir une vedette de la télé. Il ferait du TikTok aujourd'hui. Mais ouais, c'est c'est super. Là, de toute façon, comment dire, on a fait ça aussi pour marquer le coup de la disparition de Romita. Donc si on peut dire aussi qu'après Romita, après Spider-Man, il fait du Captain America aussi. Pas mal, moi que j'aime beaucoup son Captain America, il a la classe. Et c'est principalement après, il va être directeur artistique de Marvel, et il va plutôt être sur la conception de personnages, sur la conception de couverture. Il va faire pas mal de retouches, il va entraîner des nouveaux dessinateurs, il va former des nouveaux dessinateurs. Bah, Kevin Maguire, dont on avait parlé dans Justice League Internationale, c'est un des élèves de Romita. Donc il n'a pas en plus formé que des mauvais. ça reste pour moi c'est dire que c'est un de mes dessinateurs préférés, c'est l'évidence, hein. Mais Mais c'est vrai que je suis toujours fasciné par cette période-là de dessinateurs. C'est-à-dire des mecs qui avaient entre la trentaine et la cinquantaine et ils étaient complètement lâchés dans la nature par Stan Lee et ils faisaient les meilleurs comics du monde. Ils faisaient des trucs qu'on n'avait jamais vus, quoi. Personne ne faisait des BD pareils, quoi. Et je pense que si Marvel a pu se maintenir autant en qualité dans les années 70, il y avait aussi une bonne grande partie qui est due à Romita, quoi, qui est due
qu'il fait regarder les gens et
le look du Punisher, le look de Wolverine, fallait les inventer, quoi. C'est pas la première chose que tu vois d'un super héros, c'est pas son histoire, hein, c'est son costume.
Ouais.
Donc le fait que le personnage ne soit pas raté, que le Punisher, tu comprennes immédiatement que ça a pas l'air d'être, il a pas l'air d'être là pour la rigolade avec sa tête de mort géante sur le sur le torse. C'est lui qui a redesigné Black Widow. En plus, c'est des costumes qui, comment dire, ils arrivent petit à petit dans les films, quoi. Donc c'est dire à quel point son design, du design. Il était fort, quoi. Il y a des photos de Deadpool 3 où on voit Wolverine, il porte le costume jaune et bleu un peu modifié par les autres dessinateurs, mais la base, en fait,
la base est là.
La base, elle est dans la conception de Romita, donc c'est quand même pas rien, quoi. Tu vois, le Black Widow, par exemple, quand ils ont essayé de changer les costumes, ça s'est toujours foiré. Et le costume qu'ils ont fini par faire dans le film, avec les bracelets, avec c'est le costume que lui a conçu. Donc, voilà. Moi, ça m'a fait quelque chose.
La Romita Teach. Ouais, bah oui.
Ouais.
Il a même pas que entraîné, il a même conçu.
C'est fou d'ailleurs. Moi, j'adore on en a parlé quand on a parlé du Spider-Man de Stern, hein, mais moi, Romita Junior sous Stern, j'ai l'impression de voir du Romita normal avec un peu plus des différences, mais qui était là aussi. Hein. C'était moi, j'aime beaucoup la première période. Romita Junior, où il est encore dans les pas de son père et qui fait quand même des super beaux trucs, quoi. Et qui peu à peu il sort aussi de ce truc. Mais moi, Romita Junior, je suis grand fan. Bon, pas aujourd'hui, mais les années 80, Romita Junior, ça pète. Hein, c'est...
Les années 90, et puis il fait des. Ouais. Le problème de Romita Junior, c'est que tu vois quand ça n'intéresse pas.
Ouais,
tu n'es pas convaincu par le scénario. Moi, j'avais compris ça, c'est quand il était sur Spider-Man, justement, à la fin des années 90, et quand c'était Howard Mackie qui écrivait, tu voyais qu'il était en mode en conduite, tu vois, automatique. Et d'un coup, il y a Straczynski qui arrive, et là, tu sens qu'il est l'espèce de baston dans New York là, avec Morlune. C'est un de mes épisodes. Franchement, j'ai trouvé que en termes de découpage, de brutalité, de ce que ça raconte, puis de l'environnement new-yorkais, tu voyais qu'il en avait encore sous la pédale, mais c'est vrai qu'il est. Je pense que le fait d'avoir travaillé avec tant de bons scénaristes et puis d'avoir travaillé sur tant de périodes, il sent directement quand tu as un scénario qui ne vaut pas le coup. Quoi. Qui va se mettre en mode, c'est ce qu'il dit, il a un mode deadline. Il a un mode, pour lui, l'important, c'est rendre l'épisode dans les temps. Et tu vois, quand il va vraiment travailler le truc parce que ça lui tient à cœur, les épisodes de Daredevil avec Nocenti où il était co-scénariste.
Ils sont énormes, ces épisodes-là.
C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou.
Son passage sur les X-Men, c'est aussi assez terrible.
Ouais, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment sa vision de New York où tu vois que c'est un vrai New Yorkais, quoi.
Son Daredevil, enfin Man
Without Fear,
pour moi, je crois que c'est le truc que je préfère de tout ce qu'il a fait. Je crois que c'est ça.
Je crois qu'il a dit que c'était son. En plus, il a dit que c'était son préféré, ouais.
Il était venu il y a quelques années et j'avais eu un pote qui l'avait interviewé, et justement, je lui ai demandé de... J'ai essayé quand même de lui demander sur Daredevil et Innocenti, et justement, il disait c'est étrange... Enfin, il était étonné qu'on lui parle d'Innocenti, parce que pour lui, le Daredevil sur lequel il a vraiment plus kiffé, c'était avec Frank Miller. Ouais. Il dit, c'est vrai qu'avec Innocenti, c'est génial, mais pour lui, ça revient, c'est ce qu'il a fait avec Frank Miller.
Mmh. Ouais. Faut dire quand même que sur le Man Without Fear, il fait un boulot qui est pareil, qui est... Enfin, c'est...
Ouais.
Ah bah c'est la première page du Man Without Fear. Enfin, c'est comme on parlait sur des épisodes de Spider-Man où je disais, ouais, c'est je peux voir la première page et je sais tout de suite ce qui se passe dans l'épisode. Man Without Fear, là, le début où tu as Matt Murdock qui est sur les échelles à incendie,
cache d'escalier,
de New York, là, c'est trop bien quand il pique la matraque du flic. Et c'est vraiment, c'est une des meilleures origines de super-héros, origine story qu'on ait eu, quoi. Franchement, ils auraient fait ça en film. ils avaient tout.
Il y a le doigt du bonheur.
Ah, mais il y a pas...
tout clé en main, quoi.
Il n'y a pas
une. Quand t'as la gamine qui appelle Matt Murdock et tout, elle crie Matt! Et puis t'as l'onomatopée qui est tout en grand, tu le vois sauter sur les toits, là, avec le costume super cool, en jogging noir.
La première apparition du Kaïd, quand l'autre met ses mains sur l'autre parrain, qui lui brise le nu.
Et qui lui brise le nu, quoi. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien.
Et...
Ouais.
Même la case de fin, mais.
Bah, oui, on voit
toute l'évolution du costume, il saute. Ouais. C'est ouais, ça y est, j'ai envie de le relire, quoi. C'est
ouais, voilà. Et ouais, mais c'est
pas... non, mais t'as pas une case, tu sais. C'est le là quand t'as les parents de la gamine qui se tient dans les bras et tu vois Matt sur le toit de l'immeuble avec la flotte qui tombe.
Ouais,
avec
Est-ce qu'on se ferait pas un de ces quatre?
Ah putain, oui. Non, mais je pense qu'il faut, ouais.
Faire une émission là-dessus.
Sur les parts de ville de Miller, en général.
Ouais, en général. On va même parler de ceux de Denis O'Neill, si vous êtes sage.
Ah ouais, tiens, bonne idée.
Bon, voilà, on a fait le tour de ce petit épisode sur Romita. Chapeau l'artiste, j'ai envie de dire. Ouais. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, nous retrouvez sur YouTube, c'est déjà beaucoup, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. Les amis, merci beaucoup d'être venus.
Merci.
Et puis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Le monde merveilleux des comics. Ciao, bye bye, les amis.